Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme je le disais la semaine dernière, l'actualité culturelle en général, musicale en particulier, connaît un certain ralentissement cette période de vacances scolaires, comme c'est le cas chaque année d'ailleurs. Cette accalmie va cependant être de courte durée puisque le mois de novembre s'annonce très chargé en événements musicaux et ce, dès la semaine prochaine. Nous allons en annoncer et en présenter déjà quelques-uns au cours de cette émission avec ceux qui ont bien voulu y participer. Tout d'abord Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. À ses côtés, le toujours fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous recevons tous les trois Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et vice-président des Clés de Saint-Pierre. Plusieurs casquettes donc pour ce musicien très actif, auquel il a ajouté récemment celle de président et directeur artistique du festival Musique au Palais, dont la 5e édition a lieu le week-end des 23-24 novembre. Raison pour laquelle Serge Krichewski est notre invité d'honneur aujourd'hui. Nous parlerons avec lui de cette nouvelle aventure et de la programmation du festival 2019 en seconde partie d'émission, puisque pour l'instant, c'est sur l'actualité des derniers jours que nous allons nous pencher. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité des derniers jours a été faite, entre autres, de ce que l'on pourrait appeler des chinoiseries musicales. Plus sérieusement, je veux parler bien sûr du concert China Night que nous vous avions annoncé lors d'un précédent numéro. Il a été donné à la Halle aux Grains par l'Orchestre National du Capitole, samedi dernier. Il n'y avait donc que des œuvres de compositeurs chinois au programme, un chef et un pianiste chinois également. Les camarades Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy avaient mis leur colmao pour assister à cette nuit chinoise. Alors, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous avez pensé de ces chinoiseries et de leur interprétation par l'Orchestre du Capitole ?
Ben, je n'avais pas de colmao, mais...
Vous auriez dû.
Mais nous étions tous là, il faut le rappeler, tout de même pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et comme en avant-première, nous avons eu droit à une allocution de Madame Lu Yuying, qui est consule générale de Chine. Elle est basée à Marseille, mais elle est très familière de la région Occitanie. Donc elle est venue remarquer que c'était en même temps le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France.
Oui, 1964, le général de Gaulle qui reconnaît effectivement la Chine populaire.
Voilà, donc c'était un double anniversaire. Et pour l'occasion, le chef chinois qui s'appelle donc Liu Atan dirigeait l'Orchestre du Capitole, et il y avait un pianiste qui s'appelle Jian Li, qui était le soliste d'une des quatre œuvres qui étaient inscrites au programme. Alors, l'intérêt, c'est qu'il s'agissait de quatre œuvres de compositeurs vivants actuels, hein, et des compositeurs qui ont quand même un lien très fort avec l'Occident. Certains n'ont pas quitté la Chine, d'autres se sont expatriés, sont aux États-Unis, sont venus en France. Et donc, moi, j'ai trouvé pour ma part qu'il s'agissait d'un programme très intéressant, avec des œuvres inconnu de nous, évidemment, hein, mais des œuvres intéressantes, chacune avec sa caractéristique. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble de ce programme. Très bien joué par l'orchestre, qui a joué le jeu à fond. Alors, il y avait, d'une part, évidemment, les instruments traditionnels de notre orchestre, et parmi les percussions, quelques instruments avec un accent chinois, hein, en quelque sorte. Donc, on a eu vraiment un programme très intéressant, avec d'abord une ouverture qui s'appelle le Lotus, et qui est de Wen Jingguo. Wen Jingguo, qui est né en 1953, vous voyez, c'est quand même un compositeur récent, avec beaucoup de couleurs dans l'orchestration, des choses tout à fait intéressantes. Et puis ensuite, on a eu une suite symphonique en deux parties, baptisée Capriccio du Yunnan, et qui était de Qianyi Zhang, qui lui est né en 1959, avec beaucoup d'animation, une œuvre très, très brillante, très belle, avec en particulier l'intervention d'un violoncelle solo, en l'occurrence celui de Sara Yanzhou, tout en sons harmoniques, qui était vraiment tout à fait intéressant. Et puis, la troisième pièce de cette première partie, c'était un concerto pour piano et orchestre de Qi Gangchen. Alors, Qi Gangchen, c'est un compositeur connu à Toulouse, puisque en 2018 a été créé son concerto pour violon et orchestre qui s'appelle La joie de la souffrance. Et je me souviens, ça avait été très apprécié, c'était un très beau concerto. Et là, il est venu avec un concerto pour piano qui s'appelle Er Wang. Rappelons que ce compositeur fut le dernier élève d'Olivier Messiaen. ce qui est quand même une référence, donc. Et il vit aujourd'hui en France. Vraiment une très belle œuvre, développée en un mouvement très intéressant. Et le pianiste Jian Li, à la fois virtuose et très artiste, nous a offert une pièce chinoise en bis qui s'appelait La flûte de bambou. Je vous avouerai que je n'ai pas noté le nom du compositeur.
Peut-être pas retenu.
Non, peut-être pas, oui. Et la deuxième partie était occupée intégralement par une suite symphonique dont le titre anglais est Beijing Rhyme. Si l'on traduit en français « rime de Pékin », on traduit Beijing par Pékin, évidemment. Et c'était d'un compositeur qui s'appelle Long Zhu, qui est né en Chine, lui. Alors ça, c'est une œuvre de vraiment vaste proportion, en plusieurs parties, avec les parties qui sont très évocatrices. Le vent de cloche et tambour, vent de la foire du temple, vent du rythme de Pékin et vent de battement précipité. Ce sont des titres un peu mystérieux, mais très très bien. Et vraiment une belle œuvre qui, moi, par moment, m'a évoqué des clusters à la Edgar Varèse, un peu. C'est vraiment une musique forte et intense. Donc, ça a été très apprécié par le public, d'ailleurs, au point qu'il y a eu un bis par l'orchestre, un bis qui s'appelle « La bonne nouvelle de Pékin » et qui est de deux compositeurs, enfin Lu Zheng et Ong Gyenma. C'est ce qui m'a été indiqué à la suite du... Évidemment, je n'avais pas reconnu ces deux compositeurs, pour la bonne raison qu'il s'agissait d'œuvres tout à fait nouvelles pour nous. Donc un beau programme, intéressant et varié et coloré.
Anne-Marie, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette musique
chinoise ? Oui, la même
chose,
parce qu'en même temps, cette soirée, c'était un concert qui était uniquement composé d'œuvres nouvelles du XXe siècle, chinoises, composées en Chine, mais des musiques chinoises qui sont des musiques, on pourrait dire, classiques, entre guillemets, du XXe siècle.
Ah oui, tout à fait. Hein, oui, oui.
Qui en même temps ont quelques résonances donc, de la musique contemporaine occidentale, oui. Notamment à cause des percussions, mais qui en même temps ont toutes quelque chose qui rappelle une certaine tradition chinoise, quelques thèmes, quelques mélodies. Donc c'était une belle rencontre entre la musique chinoise, enfin entre la Chine musicale et aussi l'Occident, oui. Avec un chef d'orchestre qui est comme le directeur de l'orchestre symphonique de Pékin, de Beijing,
oui. pour
les Chinois. Oui. Et le public s'est laissé porter, a beaucoup apprécié ses œuvres. Elles étaient tout à fait accessibles. C'était pas de la musique expérimentale comme parfois on en a entendu en Europe. C'était une musique qui se laissait écouter aussi et qui ne manquait pas de séduction sonore et mélodique.
C'était à la fois dépaysante et accessible, si je comprends bien.
Tout à fait.
Exactement.
Alors on va demander à Serge Krichevski son avis sur les compositeurs et la musique chinoise, les contemporains bien sûr, peut-être surtout sur Qi Gongchen, qui est, je pense, celui que vous connaissez le mieux.
Alors effectivement, j'ai entendu parler du concerto dont Serge parlait à l'instant. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous apporter. Je pense que c'est effectivement des compositeurs qui ont une voix qui était peut-être plus étroite avant, maintenant un peu plus à trouver entre la musique occidentale, entre les harmonies, et puis évidemment garder quelques éléments traditionnels qui sont les leurs, qui prennent quand même de la musique.
Oui, c'est comme ça que je l'entends, moi, cette musique.
Tout à fait ça. Et ça transparaissait ce soir-là, surtout dans les pupitres de percussion. Il y avait vraiment un pupitre de percussion pléthorique. Et d'ailleurs, quand le chef d'orchestre a fait lever l'ensemble des percussionnistes, ils ont été acclamés par le public.
Oui, parce qu'ils ont joué un grand rôle, je suppose, tout au long du concert.
Oui, oui.
Eh bien, justement, lorsque nous vous avions présenté le concert, j'avais diffusé un extrait d'Air Wang pour piano et orchestre de Qi Gongchen. Cette fois-ci, pour découvrir encore la musique qui s'écrit de nos jours en Chine, je propose que nous écoutions Lotus Overture de Wen Jing Guo. Thank you. Lotus Overture, un extrait de la pièce de Wang Jingguo, une de celles qu'a joué l'orchestre du Capitole, sous la direction de Tan Liyue lors du concert China Night, samedi dernier à la Halle aux Grains. Prochain concert de l'Orchestre Symphonique Toulousain, ce samedi 2 novembre à 18h, avec un programme intitulé La Magie Fantasia. Nous quittons l'Asie pour revenir en Europe grâce au récital de leader et de mélodie qu'a donné le baryton Ludovic Tézier, lundi au Théâtre du Capitole. Il y était accompagné par le pianiste Thuy An Vuong. De nous quatre, seule Anne-Marie Chouchan a assisté à ce récital. C'est donc tout naturellement vers elle que je vais me tourner. Est-ce que Ludovic Tézier était à la hauteur de sa grande réputation dans ce répertoire de leader et de mélodie?
Oui, je crois que sa grande réputation est surtout à l'opéra, où actuellement il est devenu vraiment le très grand baryton français qui surtout exhale dans Verdi, c'est-à-dire dans les barytons dramatiques, et il a sa voix à l'ampleur qui convient, elle a le mordant, elle a tout ce qu'il faut dans ce répertoire. Dans le lead, on sent qu'il n'est pas tout à fait un chanteur rompu à ce répertoire, qu'il aborde, semble-t-il, actuellement, ce qui d'ailleurs est tout à son honneur. Mais surtout ce soir-là, on l'a beaucoup aimé, c'est ça qui a eu le plus de succès dans les mélodies françaises.
Oui.
Et notamment dans cette merveilleuse mélodie de Jacques Ibert, qui était la mort de Don Quichotte, avec un extrait du Don Quichotte qui était superbe. Et je crois que dans ce domaine de la mélodie française, il est tout à fait chez lui. Les leaders étaient peut-être moins travaillés, moins actuellement dans sa fibre, disons, mais c'était quand même une belle réussite. Il a eu un succès. La salle, elle n'était pas pleine, mais elle était
bien remplie quand même.
Au dernier moment, il y a eu des gens qui sont venus. D'abord parce qu'au Capitole, on n'a pas tellement non plus de récital, et que c'était aussi quelqu'un qui a déjà marqué plusieurs rôles au Théâtre du Capitole, à Toulouse même, et que les gens avaient plaisir à entendre ce timbre qui est vraiment d'une richesse, ce timbre de baryton qui est d'une ampleur et d'une belle maîtrise en permanence. Et je crois que Ludovic Tézier poursuit une carrière qui est en France assez rare pour un baryton, notamment chez Verdi, où il chante régulièrement Hernani, les grands rôles de Verdi, et c'est vrai qu'il a l'envergure pour tout un répertoire aujourd'hui qui nous fait honneur.
Quid de la diction de Ludovic Tézier dans la mélodie française? Est-ce que là aussi il a excellé, comme vous dites?
Dans la mélodie française, il n'a pas été plus exceptionnel que beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui, parce que j'ai remarqué parfois que les chanteurs français ne sont pas forcément les meilleurs dans les mélodies françaises. On entend des chanteurs de tous les pays qui parfois chantent mieux le français, avec une meilleure articulation, un sens du mot qui est peut-être plus développé, mais c'était tout à fait honorable et tout à fait satisfaisant, notamment, je dis, dans ces mélodies de
Jacques Ibert, apparemment, où il a vraiment fait impression. Serge Krzyzewski voulait intervenir.
Alors, je n'étais pas à ce concert, mais j'ai plusieurs magnifiques souvenirs de Ludovic Tézier, puisqu'il a commencé une belle carrière en étant souvent au Capitole, et on l'a entendu dans Don Giovanni, donc il a fait ce rôle impressionnant, hein, toujours, et puis il a également, je pense, un des derniers rôles qu'il a fait à Toulouse, c'était, je crois, dans La Favorite de Donizetti, il y a quelques années. Alors Robert aurait pu nous le dire en détail. J'ai eu la surprise, puisqu'on était dans Werther l'an dernier au mois de juin, de constater qu'on avait remonté pour lui la version baryton à Vienne avec Sophie Koch, donc dans Charlotte. Et donc il y a eu cette production que nous avions l'originalité de jouer avec Thomas Sampson, avec Michel Plasson, il y a quelques années. Donc voilà, je pense que là il était vraiment tout à fait à son honneur, même si la transcription pour baryton est peut-être un peu discutable. Elle a été faite dans un deuxième temps et le rôle était vraiment écrit pour un ténor.
Serge Chosy, vos souvenirs de Ludovic Tézier au Capitole, dans l'opéra, mais aussi en récital, il a déjà donné des récitals.
Il a donné des récitals, comme disait Anne-Marie, avec beaucoup de style dans les mélodies françaises. Hein, je crois que là, il est effectivement chez lui dans ses mélodies. Hein, et puis à l'opéra, évidemment, on l'a vu dans plusieurs opéras, comme l'a dit Serge Krzyzewski. Donc c'est surtout un timbre magnifique.
Oui.
Une rondeur de voix, une couleur qui est la belle couleur, avec des aigus qui restent très timbrés.
Facile, une voix facile.
Oui,
facile. Qui sonne.
Oui,
qui sonne
oui. Donc,
l'émission est très aisée.
C'est très bien. Alors, je n'ai hélas pas pu assister au récital cette fois-ci.
À mon goût, ce qu'on a entendu de lui à Toulouse ou autre, il a une voix magnifique. Il n'a jamais eu, sur le plan scénique, investissement
c'est
dans un personnage.
C'est un reproche qu'on lui fait
souvent. Dans un personnage qu'on attend tout de même chez un chanteur d'aujourd'hui. Il y a toujours une réserve. Il ne s'investit pas totalement dans un rôle, ni même à travers les mots. Même s'il chante bien le français, il y a toujours une sorte de distance tout de même avec ce qui chante.
Mais je l'ai entendu interviewer et il reconnaissait.
Oui.
J'allais mettre des guillemets au mot problème, c'est pas vraiment un problème. Mais il reconnaissait que le jeu, par exemple, sur scène, n'était pas une chose qui le motivait beaucoup.
Oui, mais c'est ce qu'il dit. En gros, ça n'intéresse pas.
Oui, je suis
là pour chanter, d'abord.
Oui, c'est ça.
Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'à l'opéra, quand même, on attend vraiment quelque chose de total, plus qu'à une époque, on était satisfait d'entendre quelqu'un qui chantait, quoique, quand on a toujours l'exemple de Callas qui revient, l'autre jour, il y avait encore...
Callas, c'est une des premières qui avait marqué chez elle,
c'était la soprano absolue, comme on disait. C'était pas simplement quelqu'un qui arrivait sur scène pour chanter un air. Donc, on aime aussi quand même quelqu'un qui s'investit. Enfin, Thésée, je crois qu'il a fait quand même quelques progrès dans certains rôles.
Je pense qu'il y a certains metteurs en scène qui arrivent à le diriger et à le motiver, justement, comme disait Serge Chosy, pour qu'il en fasse un peu plus que ce à quoi il est prêt à se contenter. Nous allons écouter encore Ludovic Thésée dans cette émission, après sa belle prestation lundi au Théâtre du Capitole, comme l'a dit Anne-Marie. Et d'ailleurs, l'interprétation que nous allons entendre maintenant a été enregistrée au même endroit. Il chante La Villanelle, un air extrait des Nuits d'été d'Hector Berlioz, et il est accompagné au piano par l'excellent Robert Gonella. La Villanelle, air des Nuits d'été d'Hector Berlioz, chanté par Ludovic Thésée, accompagné au piano par Robert Gonella. C'est ainsi que nous terminons cette première partie d'émission. Nous allons entamer la seconde dans quelques instants avec Serge Krichewski pour évoquer avec lui la 5e édition de Musique au Palais. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre en harmonie, vice-président des Clés de Saint-Pierre, et depuis peu, président et directeur artistique de Musique au Palais, dont la 5e édition se tient le week-end des 23-24 novembre au Palais Niel à Toulouse. Ceux qui suivent ce festival depuis ses débuts se rappellent sans doute qu'il a été fondé par Emmanuel Sirat, qui en assumait encore la direction artistique lors de l'édition 2018. Elle y avait annoncé, après le concert de clôture, qu'elle quittait Toulouse, et donc que l'aventure Musique au Palais se poursuivrait avec une autre direction et une autre équipe. Alors Serge, évidemment, je vais vous poser la question, comment avez-vous été amené à reprendre le témoin ?
Un petit peu par hasard, en fait, puisque j'ai eu la proposition de jouer au Festival 2018, à un concerto qu'Emmanuel Sirat souhaitait intégrer dans son programme, et on a fait une connaissance, donc, à ce moment-là, assez ample. Et dans les jours qui ont suivi, elle a annoncé qu'elle ne pourrait pas continue. Elle m'a proposé de réfléchir à la possibilité d'une reprise. Donc, après une réflexion assez courte et consultation de quelques amis proches avec lesquels on aurait pu faire une équipe, nous avons accepté. Et comme disait Ludovic Tézier, ce n'est pas la saison nouvelle, mais c'est l'édition nouvelle maintenant de Musique au Palais en 2019, qui sera la 5e édition.
Alors, il faut dire que la direction artistique, pour vous, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Certes, vous n'avez jamais dirigé un festival tel que Musique au Palais, mais vous êtes directeur artistique, enfin directeur musical, je ne sais pas comment vous dites, donc de l'Orchestre en Harmonie. Vous êtes investi avec les Saint-Pierre depuis longtemps, depuis les débuts. Voilà, c'est pas un rôle pour vous qui va être une totale découverte.
Oui, oui, il y a déjà une course quand même qui a duré 20 ans, si on peut dire, pour les Clés de Saint-Pierre, avec beaucoup de choses emmagasinées, beaucoup de formations faites dans tous les registres de l'organisation d'une saison comme celle des Clés de Saint-Pierre, qui s'est développée et qui est vraiment, qui a maintenant une place indéniable. Et puis, il y a eu la création en 2011 de l'Orchestre en Harmonie. Alors là, on changeait un petit peu de registre et j'avais des responsabilités un petit peu plus grandes, plus directes. Mais j'ai toujours, c'est vraiment dans ma nature, j'ai toujours chercher à avoir une direction la plus horizontale possible d'un ensemble. Et donc, j'ai sollicité toujours tout de suite les musiciens, les quelques amis qui travaillent avec nous pour cet orchestre, de manière à faire prendre toutes les décisions de manière collégiale. Et c'est ce qui nous a permis également, pour la réalisation de cette édition de Musique au Palais, un travail similaire, donc avec, comme pour l'Enharmonie, donc en fait, des amateurs d'un excellent niveau, parce que pour pouvoir jouer de la musique de chambre en public à deux ou trois musiciens, il faut déjà être tout à fait à l'aise et avoir beaucoup de recul sur son instrument. Également, des professionnels de très haut vol, puisque nous aurons Jonas Vito, nous en parlerons en détail, hein, oui, Victoire sûr. Bunel, etc. Et également, des grands élèves qu'Emmanuel Syrah avait déjà commencé à inviter dès 2015, la première édition, qui sont en l'occurrence donc des élèves des CNSM de Paris et de Lyon, qui nous font le plaisir de revenir pour certains et de venir pour certains nouveaux d'entre eux.
Donc voilà, donc on peut dire que vous êtes en terrain connu en ce qui concerne la formule de ce festival. Et puis aussi, il y a la beauté du lieu, bien sûr, et de son acoustique. Donc une proposition comme ça, c'était difficile à refuser.
Absolument, c'est ce qui nous a vraiment convaincus très très vite, c'est que ce lieu est absolument exceptionnel et nous allons essayer d'en tirer le meilleur parti, le valoriser au maximum. Et je dois dire que 5 concerts de musique de chambre avec toutes les formations possibles, un récital de piano, un récital de chant, ne pourront que magnifier ce grand salon. D'ailleurs, qui n'est pas si grand. Il est grand par la beauté et puis par la place qu'il occupe dans le bâtiment et puis ce qu'on peut en faire. Mais par la taille, il ne fait que 120 places. Il ne permet qu'à 120 auditeurs d'être présents.
C'est parfait pour la musique de chambre.
Absolument, la musique de chambre.
Elle se joue dans les salons à l'origine. Oui. On va rappeler tout de même la formule de ce festival. Vous l'avez déjà fait partiellement. Association de grands amateurs, d'élèves de conservatoire, de musiciens professionnels. On va rappeler que s'y sont produits des artistes de renom tels que Dana Tchokarli, Clara Bernat et Thierry Huillet, Magali Léger et Gilbert Clamins l'ont passé, et puis François Dumont qui a joué en avril dernier.
Sans oublier le trio Zadig quand même, qui fait une carrière
incroyable.
Voilà.
C'est devenu vraiment la grande carrière internationale aussi. Et puis il y a une autre spécificité de Musique au Palais, c'est qu'il y avait jusqu'alors en tout cas un thème particulier lors de chaque journée, un pour le samedi, un pour le dimanche. Vous avez décidé de conserver une programmation qui mélange grands amateurs, élèves de conservatoire et musiciens de renom, mais en revanche, je crois que vous avez choisi un thème unique pour les deux journées cette fois-ci.
Alors, en tout cas, pour cette année, ce sera le cas, puisque le choix du thème qui est le romantisme allemand était un thème extrêmement vaste et ça nous a peut-être permis de simplifier l'organisation de cette reprise. Les années prochaines, il n'est pas du tout exclu que nous revenions à la formule d'Emmanuel Syrah, mais suivant le contenu, disons, généré par le choix du thème, nous déciderons de diviser en deux le thème ou bien de maintenir sur un même week-end.
Autre petit changement, il y avait 6 concerts jusqu'alors, 3 le samedi, 3 le dimanche. Là, vous passez à 5, 3 plus 3
voilà.
Et 2 le dimanche.
Alors, effectivement, la longueur des concerts va légèrement changer également, puisque nous avons décidé de... Enfin, il n'y aura en réalité qu'un seul concert, probablement, véritablement sans entracte, et encore, ça n'est pas certain, mais tous les concerts auront un petit entracte. Et pour le dimanche, nous souhaitions être un petit peu plus à l'aise, avoir un format un peu plus grand, avec 2 parties de chaque concert vraiment à l'aise, et donc commencer un tout petit peu plus tard dans l'après-midi, donc également le récital de chant, le dernier concert, sera avec entracte.
Oui, puis laisser le temps aux gens d'arriver après le repas dominical, c'est, je pense,
voilà,
aussi que
éventuellement
c'est
de se promener un petit peu dans le magnifique parc du Palais Niel.
On espère qu'on aura des belles journées comme celles que nous avons en ce moment. Alors, vous le disiez, le romantisme allemand est un vaste continent, même en le limitant à la seule musique de chambre. Donc, vous avez dû faire des choix, impossible de faire autrement. Le thème que vous avez choisi, vous l'avez appelé « Visage du romantisme ». Quels sont les visages, les facettes que vous avez voulu mettre en lumière ?
Là aussi, bon, comme vous le disiez justement, nous avons dû faire des choix, mais à l'intérieur de chaque thème de concert, puisque il y aura donc sur les 5 concerts, des concerts qui seront plus spécifiquement des récitals. Alors il y aura le récital du samedi soir et le récital du dimanche soir, chant et piano, qui eux-mêmes d'ailleurs seront une sorte de résumé, voilà, de un petit peu du romantisme allemand dans la musique de chambre, dans le récital ou dans la mélodie. Pour les 3 autres concerts, nous avons cherché des thèmes, mais parfois il y aura même plusieurs thèmes, parfois 2 ou 3 thèmes par concert. Donc le premier concert, je ne vais pas vous les énumérer tous, mais interrogera la relation qu'il y a entre le classicisme et le romantisme, comment des compositeurs ont cherché à opérer plus ou moins consciemment une transition entre les 2 styles, sachant que la musique allemande est à cette époque, hein, en gros, même avant le début véritable du romantisme, c'est-à-dire entre 1780 et 1910 ou 20, est d'une richesse absolument extraordinaire. Les très grands compositeurs se succèdent immédiatement. Et donc, il y a forcément comme ça des périodes de transition. En général, on a tendance à définir un premier romantisme qui est plutôt à partir de Schubert, Schumann, Mendelssohn. Et à partir des années 40-45, on commence à passer à un romantisme plus tardif. Également, on voit rapidement apparaître la personnalité de Brahms, de Wagner et tous les derniers romantiques qu'on appellera les post-romantiques qui pourront aller jusqu'à 1900-1910.
On va dire que le pré-romantisme se trouve déjà chez Mozart et Beethoven, donc on est avant 1800, et puis on entend tous les grands de ce mouvement, donc Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, ils sont tous là.
Absolument, on aura également des compositeurs qui sont un petit peu sur les marges, mais qui malgré tout comptent, hein, comme Max Bruch, comme Hugo Wolf, hein, pour la mélodie, évidemment Gustav Mahler, nous sommes très heureux de pouvoir entendre le cycle des Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler par Victor Bunel et Nino Pavlenichvili. Donc ça, ce sera en deuxième partie. Il y aura également des mélodies de Brahms avec alto, avec notre collègue Lorenz Minger, qui accompagnera les 2 solistes du récital. Il y aura également des mélodies jouées au piano seul, puisque c'était la mode aussi au 19e siècle, notamment un très bel arrangement de Widmung de Schumann par Liszt, joué par Nino Pavlenichvili. Il y aura d'autres choses comme ça, hein, Schubert. Nous avons une connexion extrêmement vraiment fructueuse avec les jeunes, hein, Vincent Martinet en particulier, Angélique Trajan, tous les jeunes du CNSM qui, pour la plupart, alors c'est aussi un de nos souhaits, sont d'anciens Toulousains. Ce sont des gens qui ont appris la musique, leur instrument au Conservatoire régional de Toulouse.
Avant, après, de rejoindre les CNSM de Paris ou de Lyon. Il y en a un qui est à Paris en ce moment, dans la classe d'ailleurs de quelqu'un qu'on connaît bien, Denis Pascal. C'est Vincent Martinet dont vous venez de parler. On va l'écouter tout de suite. Vous allez voir la qualité des jeunes musiciens qui se produisent à Musique au Palais. Et concernant Vincent Martinet, je crois que ce sera la 3e édition à laquelle il participe. On l'écoute tout de suite dans l'interprétation de la sonate numéro 21 de Beethoven.
Thank you.
Le jeune et très prometteur Vincent Martinet, élève actuellement dans la classe de Denis Pascal au CNSM de Paris, il jouait la sonate numéro 21 de Beethoven, un pianiste que vous pourrez entendre samedi et dimanche, les 23 et 24 novembre au Palais Niel, où il se produira en solo ou avec d'autres jeunes musiciens. Alors puisqu'on en parle, quels sont les autres jeunes musiciens qu'on va pouvoir entendre lors de cette 5e édition de Musique au Palais ?
Alors donc dans les jeunes issus des CNSM, nous aurons Floriane Naboulet qui est violoniste avec laquelle... Vincent jouera le scherzo de la sonate FAE de Brahms, magnifique scherzo, et il aura donc deux autres complices, Adèle Gineste et Roman Bestaud, qui joueront avec lui, en plus de Floriane, le premier quatuor de Brahms, le dimanche après-midi. Donc une très belle équipe. Également Angélique Trajan nous a rejoint pour une sonate de Beethoven et puis un arrangement de Sigismond Thalberg de l'air Casta Diva de Bellini. Elle vient juste d'entrer au CNSM de Lyon. Donc voilà, elle est aussi une jeune fille au talent prometteur qui a beaucoup d'intérêt pour des tas de disciplines, beaucoup de talent.
Ça, c'est pour les jeunes, donc les élèves de Conservatoire National Supérieur de Musique, que ce soit donc Paris ou Lyon. Et puis, il va y avoir des grands amateurs, on en a parlé. Quels sont ceux qu'on va retrouver cette année? Alors, il y en a qui viennent depuis les débuts.
Absolument. Alors, on a vraiment le grand plaisir d'accueillir de nouveau Jean-Pierre Salmona, qui est un habitué depuis 2015 et qui est un excellent pianiste cardiologue. Alors, les médecins sont souvent d'excellents musiciens. Enfin, il y a une association, je crois, de médecins musiciens à Paris. Enfin, lui... déjà un beau répertoire, un niveau qu'il entretient. Il lui-même aussi dirige un festival, je crois, dans les Yvelines. Donc voilà, Gilbert Salmona fait aussi le lien avec
Jean-Pierre Salmona.
Oui, pardon, Jean-Pierre, avec les amateurs présents les années précédentes. Nous aurons le plaisir d'accueillir cette année alors des personnalités comme Anne Marty, qui enseigne la littérature au lycée Saint-Sernin, qui fera plusieurs pièces en tant qu'accompagnatrice, qui accompagnera un violoncelliste avocat, Antonin Udrizier, dans des pièces de Schumann et de Bruch. Nous aurons également un clarinettiste qui fera deux extraits, deux des trois Fantasiestücke de Schumann. Nous aurons un trio avec piano, donc qui jouera le Notturno de Schubert avec Olivier Marsal, Amaury Barguin et Pierre Morel. Et puis, alors nous proposerons aussi au public, dans le second concert du samedi, un extrait du quintet La Truite qui mélangera donc des amateurs, en particulier ceux que je viens de citer, avec également une très bonne altiste, Sarah Netter, à des professionnels. Alors ma collègue Estelle Bartolucci qui nous a fait le plaisir de tenir la partie de violon,
difficile partie du Capitole.
De violon, voilà, de l'orchestre du Capitole, et un ancien de l'orchestre du Capitole, tout récemment parti, Michel Renaud à la contrebasse, qui fera la partie de contrebasse. Donc ce sera vraiment un mélange intergénérationnel, hein, des chemins, voilà, très différents qui se retrouvent. Il y aura une formule similaire pour le premier mouvement du quintet de Mozart en sol mineur avec l'ensemble Eos, donc quatuor à cordes issu de l'orchestre du Capitole, qui inclura Sarah Netter comme second alto.
Vous avez évoqué le fameux quintet La Truite de Franz Schubert et son quatrième mouvement célèbre entre tous. Eh bien, je propose qu'on l'écoute maintenant, ce quatrième mouvement du quintet La Truite de Franz Schubert.
Thank you.
Voilà le fameux quatrième mouvement du Quintet La Truite de Franz Schubert. Et vous nous disiez en l'écoutant, Serge Krzyzewski, que c'était décidément une merveille.
Oui, c'est vraiment, on réalise à quel point à partir d'une mélodie simple hein, qu'on a maintenant tous en tête, Schubert brode avec très peu d'instruments, hein, comme ça un environnement, hein, l'ambiance aquatique hein, dans laquelle la truite...
ondule dans le courant, voilà, on l'imagine voilà, très voilà, bien, voilà, ondulé voilà, entre, ouais, entre ouais. les cailloux, dans la rivière, dans le torrent. Alors, on a parlé des grands amateurs et des élèves de CNSM de Paris ou de Lyon qui sont programmés lors de cette 5e édition de Musique au Palais. Il faut qu'on parle maintenant des professionnels parce qu'il y a vraiment des musiciens de tout premier plan cette année.
Oui, alors nous avons eu la chance, le plaisir d'avoir l'accord de Jonas Vito pour faire un récital le premier jour, c'est-à-dire samedi soir. Le récital sera à 18h15 et il va faire lui aussi donc un résumé, un petit peu comme ce sera le cas le lendemain, pour le récital piano-chant, un résumé un petit peu. Donc il commencera avec Beethoven, avec la sonate pathétique. Et ensuite, une œuvre très intéressante et assez rare de Beethoven, les variations en fa majeur. Bon, voilà, c'est une idée un petit peu expérimentale que Beethoven exploite dans ses variations. Ensuite, il y aura une œuvre très dense de Liszt, hein, les funérailles, donc une œuvre comme ça très compacte qu'on aura le plaisir d'entendre, qui fera un contraste hein, très fort avec Beethoven. Et en deuxième partie, le duo, donc Robert Schumann, Johannes Brahms, donc d'abord les scènes de la forêt, et ensuite les deux rhapsodies opus 79. Jonas Vito est un musicien extrêmement éclectique. Enfin, il a déjà enregistré et joué dans beaucoup de répertoires différents. La musique française, très bien. Il a fait récemment à Toulouse un arrangement de Petrushka avec Nino Pavlenichvili précisément. Et il y avait également le Faune. Enfin, c'est un musicien qui a un répertoire très très large et qui est très sympathique, qui a beaucoup accompagné les chanteurs aussi, qui connaît bien, je pense, tout le monde du romantisme allemand. Enfin, tout ce...
Et qui sera sans doute très heureux de se produire dans ce superbe salon du Palais Niel avec cette acoustique merveilleuse qui se prêtera très bien donc au récital qu'il va donner à 18h15 le samedi 23 novembre. Vous avez dit beaucoup bien de lui, alors on va l'écouter maintenant dans un des extraits de ce beau programme de piano romantique allemand qui va jouer lors du troisième et dernier concert du samedi. Nous allons écouter la très belle Rhapsodie opus 79 numéro 1 de Johannes Brahms, interprétée bien sûr par Jonas Vito. La Rhapsodie opus 79 numéro 1 de Johannes Brahms, interprétée par Jonas Vito, une des pièces que cet excellent pianiste va jouer lors du récital qui terminera la journée du samedi. Et donc dimanche, il y aura le grand concert de clôture comme d'habitude. Et là, on va retrouver un trio de femmes. D'excellentes musiciennes.
Voilà, alors nous n'aurons eu qu'une seule compositrice femme, hein, grâce à Jean-Pierre Salmona qui a bien voulu nous jouer le dimanche après-midi une romance de Clara Schumann, mais par contre des interprètes femmes, nous en aurons beaucoup heureusement, et en particulier donc les trois du dernier concert, c'est-à-dire Victoire Bunel, mezzo-soprano, Nino Pavlenichvili qui l'accompagnera au piano et qui jouera également des pièces seules et non des moindres, et Laura Ensminger de l'Orchestre du Capitole, donc altiste, qui nous fait le plaisir de les accompagner dans les deux chants de Johannes Brahms, qui sont donc écrits pour voix de mezzo, piano, alto. Donc, une œuvre qui n'est pas donnée si souvent que ça. Et puis, à côté de ça, nous aurons par contre des choses qui étaient indispensables, on va dire, dans un récital de chants romantiques, à savoir trois mélodies de Schubert, dont Gretchen am Spinnrad, donc Marguerite au Rouet, et puis l'ode à la musique. Enfin, ça a des choses très, très belles. Également, ensuite, en deuxième partie, alors, les deux mélodies de Brahms, interrompu juste par une mélodie dans un arrangement de Liszt, une mélodie de Robert Schumann que Liszt avait transcrite, une mélodie magnifique. En deuxième partie, nous commencerons avec le cycle des chants d'un compagnon errant de Gustav Mahler, donc, qui sera suivi de la mort d'Isolde, transcrite par Liszt, donc de son ami Richard Wagner. Le prélude n'avait pas été transcrit par Liszt, il a été transcrit après par d'autres pianistes, mais ce sera uniquement la mort d'Isolde que Nino nous jouera ce jour-là. Ensuite, nous aurons deux mélodies extraites des Wesen, donc Lieder, donc ce cycle magnifique écrit par Richard Wagner, on dit en général un peu en esquisse à son opéra Tristan et Isolde, sous le coup de la passion avec Mathilde Wesendonck, et ce sont les deux des plus belles mélodies de ce cycle de cinq mélodies. Et pour terminer le concert, nous aurons deux mélodies d'Hugo Wolf, qui appartient vraiment à cette sphère comme ça post-romantique, hein, la sphère wagnerienne, mahlérienne, très très proche de ces univers. Et nous sommes ravis, hein, d'entendre tous ces compositeurs chantés par Victoire, qui est une artiste de grand talent, qui fait une carrière maintenant vraiment magnifique en Europe, partout, probablement dans le monde, qui va chanter très bientôt au Théâtre du Capitole, alors pour un récital Poulenc, elle participera au récital Poulenc, mais également dans les opéras à venir, et pas seulement en mai 2020, mais je pense qu'il y a d'autres projets après, mais elle nous en parlera. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est vraiment un grand plaisir de la recevoir, elle et Nino, puisqu'elles se connaissent déjà, elles ont déjà travaillé ensemble plusieurs fois.
Nino Pavlenichvili, qui est une excellente accompagnatrice.
Absolument, qui est vraiment demandée, qui fait une très belle carrière, qui a enseigné au CNIPAL et qui parcourt elle aussi, hein, l'Europe et le monde pour ses conseils et toute sa qualité, sa grande qualité, son grand talent de chef de chant.
Voilà, alors Victoire Bunel, vous le disiez, on l'entendra au Capitole, ce sera en mai, elle fait partie de la distribution de Genoufa, l'opéra de Jana Tchek, et ce sera du 7 au 16 mai, et pour vous faire découvrir sa belle voix de mezzo-soprano, voici un extrait d'un de ses récitals, elle y chante un lied de Robert Schumann.
Nicht begraben will ich weit.
Extrait d'un récital de Victoire Bunel, accompagné ici par la pianiste Sara Ristorcelli, un lead de Robert Schumann, un des compositeurs au programme du concert de clôture de Musicopalais 2019, qu'elle donnera dimanche 24 novembre à 18h15, accompagné par la pianiste Nino Pavlenichvili et l'altiste Laura Ensminger. Pour finir, Serge Krzyzewski, un mot sur la dimension caritative de ce festival. Nous n'en avons pas parlé, mais elle est très importante.
Oui, et c'est effectivement la destination première et ultime en même temps, c'est-à-dire que les associations de militaires blessés ou handicapés hébergés au Palais Niel sont les destinataires, ça fait vraiment partie des statuts, hein, d'une partie, la plus grande possible, on l'espère toujours, de la recette de ce festival. Donc c'est pour ça qu'il faut venir nombreux, donc écouter ces 5 concerts, les militaires qui nous accueillent gracieusement et qui nous ouvrent les portes de ce magnifique bâtiment en seront d'autant plus ravis d'avoir une aide, hein, qui est toujours importante dans les situations de détresse des familles ou bien quand il y a vraiment des opérations à faire pour des militaires blessés.
Et puis aussi une information concernant la réservation des places au concert, parce que je crois qu'il y a du nouveau cette année. On va vraiment pouvoir réserver
absolument
jusqu'au dernier jour.
Absolument, Eric, vous faites très bien de le souligner. C'est-à-dire que nous avons cette année la possibilité de réserver jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le samedi 23 à 10h du matin. Il y aura également une petite billetterie pour les gens qui n'ont pas pu réserver. Évidemment, il est toujours préférable de le faire par la billetterie Festique. C'est extrêmement pratique sur le site. Et il y aura malgré tout une billetterie d'appoint sur place.
Très bien. Rapidement, parce que nous arrivons au terme de cette émission, on peut annoncer les 2 prochains concerts de l'Orchestre National du Capitole. D'abord, celui de ce samedi de novembre à 18h. C'est un happy hour. Et il est intitulé La Magie Fantasia, Serge Chauvy.
Il s'agit là d'un hommage à un film mythique, hein, Fantasia de Walt Disney, qui date quand même de 1940. C'est un film qui, pour la première fois, adaptait dans sa bande sonore la stéréophonie au cinéma. C'était une grande première. Hein. Et donc, il y avait toute une pléiade d'œuvres en extrait ou intégral qui étaient donc là pour soutenir un dessin animé ou l'inverse, non ? Un dessin animé qui soutenait les pièces, qui étaient quand même jouées par l'orchestre de Philadelphie sous la direction du très célèbre à l'époque Léopold Sokowski. Alors, pour le concert de la Happy Hour de samedi, en fait, c'est un certain nombre de ces pièces, pas l'intégrale, hein, mais il y aura la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, dans l'orchestration de Sokowski, et puis des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, le fameux apprenti sorcier de Paul Dukas, qui ne se souvient pas de Mickey aux prises avec un ballet, des ballets et des sodos, des extraits de la 6e symphonie pastorale de Beethoven, et Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgski. Il y aura également un extrait de la 5e symphonie de Beethoven qui, cet extrait-là, n'appartient pas au Fantasia original de 1940, mais au remake en quelque sorte que Walt Disney avait sorti en 2000 de Fantasia. Donc on aura toutes ces œuvres qui seront données sous la direction du chef roumain Gabriel Bebeșelea. Je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom.
On vous pardonnera. Donc la magie Fantasia ce samedi 2 novembre à 18h à la Lograin, et puis le vendredi suivant, le 8 novembre à 20h, toujours à la Lograin. Tougan Sokiev va diriger un programme sous-titré « Le combat des titans ». Alors là, qui va-t-on entendre ? Il y a 2 titans qui vont s'affronter, si j'ai bien compris.
Ah oui, 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 il va d'abord y avoir Henri Dutilleux, ce magnifique compositeur disparu en 2013 à l'âge vénérable de 97 ans. Donc une espèce de, comment dire, d'héritier de Debussy, mais avec une écriture moderne de son temps, hein, avec son concerto pour violoncelle et orchestre, qui a ce titre magnifique, Tout un monde lointain, tiré des fleurs du mal de Charles Baudelaire, le titre, hein, et concerto qu'il avait d'ailleurs dédié à Mstislav Rostropovitch, qui en avait assuré la création. Et là, ça sera donné par Victor Julien Laferrière comme soliste, grand violoncelliste qu'on a pu admirer récemment dans les variations rococo de Tchaïkovski. Et en deuxième partie, ce sera tout simplement
Les planètes de Gustav Holst.
Immense portrait du système solaire, en quelque sorte, hein, avec les 7 planètes connues donc de l'époque, qui commencent par Mars, celui qui apporte la guerre, et qui se referme avec Neptune, le mystique. Donc voilà, nous aurons droit à ces magnifiques, 2 magnifiques œuvres, très différentes l'une de l'autre, hein, mais toutes très colorées.
Un vrai combat de titans, comme l'indique le sous-titre de ce concert. Ben, je vous propose qu'on écoute un extrait des planètes, puisqu'on vient d'en parler, ces magnifiques planètes de Gustav Holst, et il s'agit d'une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée par Tougan Sokiev. Extrait des Planètes de Gustav Holst, une version de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tugan Sokiev. Et c'en est terminé du présent numéro de Mélomanie. Il me reste à remercier Anne-Marie Chouchan et Serge Ozy d'y avoir participé une nouvelle fois. Un grand merci aussi à Serge Krichevski de nous avoir présenté la programmation de la 5e édition de Musique au Palais, qui se tient donc à Toulouse, au très beau Palais Niel, le week-end des 23-24 novembre. Il y a 5 concerts, 3 le samedi, 2 le dimanche, avec d'excellents musiciens et des programmes autour du thème visage du romantisme allemand. Tout ça dans un cadre splendide, faut-il encore le rappeler. Ne ratez pas l'occasion et réservez vos places dès maintenant en vous connectant au site du festival www.musicopalais.org où vous trouverez la billetterie en ligne et tout le détail de la programmation. En ce qui concerne les 2 concerts de l'Orchestre National du Capitole dont nous vous avons parlé il y a quelques instants, La Magie Fantasia ce samedi 2 novembre à 18h et Le Combat des Titans vendredi 8 à 20h, chaque fois à la Halle au Grain, les renseignements et réservations sont disponibles sur le site www.onct.toulouse.fr. Je signale enfin le premier concert de la saison organisé par l'association Gabriel Fauré à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Il a lieu jeudi prochain, 7 novembre à 20h30 et il sera donné par le Quatuor Trombicelli qui mêle trombone, sacboud, violoncelle et percussion dans un programme qui alterne musique et lecture de poèmes. Ça paraît déroutant comme ça sur le papier, mais je peux vous dire que c'est aussi beau qu'original. Vous pouvez vous informer et réserver vos places sur le site www.gabrielforêt.fr. Merci au précieux Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de rester fidèle à cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.